tout le monde. Bonjour, Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 20 mai 2015. Il est un peu plus de 14h, 14h03. Une émission qui va être bien. Je laisse Gérald en parler, une émission très particulière aujourd'hui. Je t'en prie, Gérald, quel spectacle
de quoi Bonjour, chers auditeurs.
De quoi nous parler pour la semaine prochaine?
Enfin, Spectaculaire disons, oui. 67e. Nous recevons 67e. Aujourd'hui deux invités, donc Franck Lézet, qui va nous présenter une de ses créations dans le cadre des ballets de l'Opéra de Lyon, qui vont se donner au Radiant. Et nous recevons Gaïa Valette-Pilanco, ici présente, journaliste de danse, qui inondera notre invité de questions très pertinentes.
Allez, vas-y, lance donc. Quand a lieu ce spectacle? Donne
Alors,
les précisions.
Ça va commencer ce soir, il me semble, ou demain. Mercredi 27, la semaine prochaine. Mercredi 27, voilà. Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30. Ça sera au Radiant, Bellevue, Lyon, Caluire, à 20h30 précise. La durée du spectacle est d'1h30 environ. Et les tarifs de 10 à 25 euros. Donc ce sont trois créations, créateurs, chorégraphes, danseurs, scénographes, etc., différents, dont nous avons ici un invité, donc Franck Lézet, pour la deuxième création.
Alors nous commençons en musique, nous commençons avec Messe pour un temps présent, qui n'est pas exactement l'univers musical de Franck Lézet, mais celui-ci pourra justement nous dire un peu plus précisément de quoi il est question.
Parce qu'il sera question de rock aussi.
Voilà, Gérald, nous commençons, rappelons, nous sommes bien sur Radio Canu. Auditeurs, vous êtes très bien sur Radio Canu, le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien radiocanu.org si vous nous écoutez sur Internet. Alors, nous étions dans la messe d'un temps présent. Ce n'était pas le prologue, hein, Gérald, c'était là.
C'était le psyché-rock.
Le psyché-rock. Et alors, pourquoi cela, Gérald?
Alors, c'est un grand classique de la...
C'est un grand classique de la danse moderne, on va dire, puisque c'est une pièce de Béjart qui a été écrite par Pierre Henry, en fait. Voilà. Et en fait, concrète. C'était juste pour introduire, dans la mesure où le travail de Franck Lézet s'est inspiré, effectivement, se pose sur une musique rock.
Voilà, qui, avec des musiciens là, on va le laisser parler.
Allez, Gérald,
juste pour résumer le propos de l'émission, trois jeunes chorégraphes, tout juste émergents, Franck Lézet ici présent, Ashley Wright et Tadayoshi Kogeguchi, par ailleurs danseurs du ballet de l'Opéra de Lyon, créent chacun une pièce pour la compagnie. Donc, voilà, un des trois spectacles.
Allez, Gérald, on lance le bonjour.
Bonjour à tous. Donc moi c'est Franck Lizet. J'ai 36 ans. Je suis arrivé à Lyon donc au sein de la compagnie du ballet il y a maintenant 10 ans. Auparavant, j'avais fait 3 ans au ballet du Rhin qui se trouve à Mulhouse et 2 ans en Allemagne à Saarbrücken.
Ça fait quand même quelques années que vous dansez alors.
Donc, ça fait quelques années, oui. C'est vrai ans, que je suis plutôt en fin de carrière qu'en début. Et donc c'est bien parce que bah, justement pour ce programme première qui se passe au Radian, on a eu droit à la carte blanche. Donc on profite pas mal de pouvoir travailler justement avec des professionnels et de faire un peu ce qu'on veut.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors, justement, j'en ai profité déjà pour ma part, déjà au niveau du choix musical. J'ai mon compositeur qui s'appelle Sylvain Ricci, avec qui on a donc travaillé sur la musique, une musique qui traverse un peu le rock, le pump rock, et avec aussi une ambiance qui est beaucoup plus minimaliste, car ma pièce s'effectuera en 3 parties.
Pourquoi 13 danseurs ?
Alors 13 danseurs parce que je voulais vraiment...
C'est un bel effectif ça,
ouais, 13 c'est vrai. Danseurs. Ouais. Alors j'ai pris un risque parce que justement j'ai la chance de pouvoir faire une pièce pour une compagnie professionnelle. Donc j'ai voulu profiter au maximum de personnes. Et parce que j'avais choisi une musique rock, je voulais pas que ça devienne non plus un concert, que aussi ça reste une pièce de danse. Et donc pour ça j'avais besoin vraiment d'une masse. Donc beaucoup de gens sur scène.
Et vous ce qui n'exclut pas des solos et des duos dans l'écriture.
Ça n'exclut pas, non, voilà, justement parce que comme la pièce est en 3 parties, donc la deuxième partie est beaucoup plus minimaliste où là on va commencer à trouver des choses un peu plus privées, donc des duos, des solos, des moments comme ça un peu plus calmes.
Vous les connaissez, hein, ces 13 danseurs.
Ah, ces 13 danseurs, ouais, ce sont mes collègues.
Ce sont donc, des collègues.
Ouais, c'est des collègues, donc c'était super parce que justement on passe de l'autre côté et on appréhende toujours un petit peu comment ça va se passer parce que bon quand on est devant un chorégraphe il y a toujours quand même un respect et puis bon c'est cette pression à vouloir donner alors que là bon on se connaît tellement que on pourrait presque rester les camarades et puis on essaye de faire quelque chose ensemble et pas du tout en fait ça s'est super bien passé on a réussi à trouver vraiment une entente par rapport à ça le respect était là et donc ça nous a permis d'avancer très très vite quoi.
Vous travaillez depuis longtemps sur cette chorégraphie qui d'ailleurs n'a pas encore de nom. Hein.
Alors elle n'a pas encore de nom pour plusieurs choses parce que je suis encore en train de réfléchir dessus parce que justement chaque jour maintenant on est vraiment sur la phase finale de la création.
J-7 mercredi prochain.
Voilà, ouais. Là on attaque justement aujourd'hui cet après-midi. Je vais au Radian pour faire le placement sur scène avec les danseurs.
D'ailleurs auditeur on ne l'a pas indiqué mais Franck est d'une amabilité extrême. On remercie également Sophie. Franck n'est présent que jusqu'à 14h30. Il nous reste donc encore quoi un gros quart d'heure à profiter de sa compagnie. Donc je vous interrompais. Il faudra vous filer. Tout à l'heure. Donc cet après-midi, vous rendez justement au Radian pour. C'est pas encore le filage.
Le filage. En tout cas, au Radian, on va s'occuper maintenant des lumières et puis de l'espace qu'on a pour faire la chorégraphie.
Mais vous avez déjà répété longuement à l'opéra, je suppose.
À l'opéra, oui.
Au dernier étage, c'est ça.
C'est ça, au dernier étage, sous la voûte de verre.
Très lumineux.
Ouais, très lumineux, une super vue. Ça vaut le coup de venir visiter l'opéra rien que pour voir le studio. Et donc voilà quoi. Donc on va voir comment ça va se passer maintenant. Et puis mais c'est vrai que le travail a été un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas eu spécialement beaucoup de temps parce qu'en étant aussi danseur dans la compagnie, on a dû produire pour la compagnie. Donc c'est-à-dire danser le répertoire qu'on devait représenter. Mmh. Et en plus nous penser justement à notre création. Donc on s'est pris bien à l'avance. C'est vrai que moi personnellement, ça fait presque un an que je suis dessus, quoi. Donc déjà en travaillant la musique, et puis moi en réfléchissant à ce que je voulais montrer et dire.
La compagnie de Lyon est quand même le ballet de Lyon est quand même un ballet d'une notoriété mais prodigieuse. J'ai cru comprendre que vous reveniez d'ailleurs d'une tournée, en plus une tournée non pas à Bordeaux, Paris ou Bron, ni Villeurbanne, c'était à New York, je crois, c'est ça ?
Oui, on a fait. Il y a eu une bonne tournée aux États-Unis. Donc ça c'est toujours génial. Hein. C'est vraiment le côté qui est super dans notre métier. Hein. C'est sûr, c'est un petit peu la rançon de du travail aussi qu'on fournit. Donc ça c'est vraiment le plaisir. Total,
ouais. J'ai indiqué cela pour précisément bien un peu étayer cette chose que vous nous indiquez, à savoir que même si cela fait un an que vous travaillez dessus, vous avez eu à côté une activité de danseur et je crois que ce sera la deuxième partie d'émission. Galia va à tenter de peut-être même réussir à retracer un peu un portrait de ce ballet, de cette compagnie de c'est ballet de l'Opéra National de Lyon ou c'est non
c'est,
ballet
oui, c'est ça oui,
oui. Donc en deuxième partie 14h30 auditeurs restez fidèles et puis surtout je souhaitais indiquer un tout petit fait quoi. Vous seriez-vous blessé lors de cette tournée américaine?
Alors je me suis blessé malheureusement juste avant. Oui, c'est vrai que en dansant donc un répertoire de la compagnie, je me suis rompu le tendon d'Achille.
Aïe. Mais êtes-vous parti alors en tournée
ou, non,
vous avez,
non, non,
vous
non,
n'avez pas accompagné vos camarades?
Non, c'est d'arriver juste avant. J'aurais préféré, c'est vrai que ça arrive plutôt après.
Ou pendant, même.
Mais ou pendant pour pouvoir rester un peu plus longtemps. mais non. Je n'ai pas pu partir.
Mais vous avez pu mettre alors à profit ce temps pour travailler un peu, c'est ça?
Alors oui, parce que ça a été aussi compliqué justement parce que
Les danseurs n'étaient pas sous votre.
Les danseurs n'étaient pas là de toute façon. Donc là, c'est vrai qu'on a eu 10 jours pour finir la pièce, donc ce qui est très peu. Et j'ai dû remettre un peu tout en question aussi, donc un travail qui était complètement différent. Je me suis fait des montages vidéo pour structurer la pièce. Et justement, quand la compagnie est revenue, où on a rattaqué à fond les ballons et
pied au plancher.
Voilà.
Justement, à propos de vidéos, d'outils de travail, d'écriture chorégraphique, on va essayer de quand même, sans déflorer le spectacle, parler un peu d'écriture.
Bien sûr.
Vous dites, dans les propos rapportés par Galia, ici présente d'ailleurs, quant au mouvement, j'ai beaucoup improvisé en studio, je me suis filmé et utilisé le reverse de mes phrases, comme si l'on rembobinait un film. Ceci amène parfois une gestuelle improbable, mais toujours terrienne. Alors, comment vous utilisez cette vidéo, le côté comme les voix à l'envers?
Alors, j'utilise, le reverse parce que, justement, c'est pour pas forcément rester à moi ce que je sais faire et essayer de m'emmener ailleurs. Donc, non seulement j'essaie d'emmener les danseurs aussi dans autre chose, et moi, ça m'apporte un petit peu une découverte. Et ne pas aller forcément dans la facilité ou dans ce que je sais faire. Donc trouver un autre chemin aussi pour moi, me dire « Ah bah tiens, je pourrais aller dans cette direction-là également. » Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir toujours aller sur quelque chose de nouveau.
En vous donnant des contraintes.
En me donnant des contraintes, voilà.
Alors le côté, le groupe de rock live qui va jouer sur scène, c'est aussi une autre contrainte?
Alors c'est une autre contrainte, mais je trouve ça, enfin c'était vraiment un souhait, parce que j'aime ce côté justement live aussi de la musique, ça fait partie aussi de notre support. S'il n'y avait pas de musique, il n'y aurait pas non plus de danse, comme il n'y aurait pas de technicien, il n'y aurait pas de danse.
Est-ce que ça peut exister? Ça faudra demander à Galia,
la danse en musique.
La danse a cappella, quelque chose comme ça.
Bien sûr,
bien sûr.
Dans le
bouton,
il n'y a pas de musique.
Bien entendu, c'est sûrement très réduit quand même,
voilà,
c'est pas quelque chose de...
Et la musique rock, je l'ai choisie aussi pour le public également, parce que j'aimerais bien justement amener un public qui n'est pas forcément attiré par la danse, mais par la musique, ferait que ils viendraient pour juste déjà pour voir, écouter la musique, et puis éventuellement se plaire à regarder un spectacle.
Et puis je pense aussi que c'était la salle, le Radiant, qui a inspiré...
Oui, parce que au départ c'était surtout une salle de concert, donc je voulais aussi profiter de ce lieu et peut-être essayer de récupérer le public qui venait à l'époque pour les concerts à venir voir un spectacle de danse.
D'accord. Et qu'entendez-vous alors par danse terrienne?
Alors la danse terrienne, pour moi,
gestuelle terrienne.
Une gestuelle terrienne, pour moi, c'est quelque chose qui est animal. Donc c'est ça va être quelque chose de très ondulé, mais aussi quelque chose de lourd. Donc le rock est pour moi aussi chorégraphiquement parlant, excusez-moi, quelque chose de lourd. Donc c'est de travailler dans ce sens-là.
Avec la souplesse d'un jeune éléphant, comme dit la chanson.
Dire ça.
Moi j'ai une question à poser à Franck, c'est comment vous avez construit votre pièce justement en trois parties.
Un triptyque, mais
comment
le thème, enfin des idées directrices, des mouvements, un sujet.
Alors, il y a pas un sujet. J'ai pas une histoire. J'ai pas voulu. Ça se fait régulièrement, mais ça, j'ai pas voulu. Je l'ai construite en fait une fois la musique faite. Et par rapport à la danse, en fait, ça s'est fait un petit peu tout seul. Fur et à mesure, ça dépendait aussi selon ce que moi je demandais, comment le rendu qu'il y avait. Et donc, j'ai pas essayé tout de suite de formaliser quelque chose. Ça s'est fait au fil du temps. Donc il n'y a pas vraiment une structure dès le départ, ok je veux ça, je veux ça, je veux ça, non, j'ai voulu essayer aussi la découverte des choses, et puis en restant sur un thème brut, parce que la musique est quand même assez brute, et voilà.
Mais comment se construit la pièce? C'est-à-dire, est-ce que vous demandez à vos danseurs d'improviser à partir de thèmes, ou est-ce que vous leur apportez déjà un matériau?
Non, j'apporte.
Construit. Ouais. Sur lequel ils vont faire des variations, on va dire.
Non, j'ai pas voulu faire d'improvisation, parce qu'on a un répertoire déjà dans la compagnie qui nous demande beaucoup d'improvisation. Et justement, j'ai voulu changer et vraiment écrire de A à Z. Donc il n'y a aucun moment d'improvisation. Et je trouvais ça aussi intéressant de retravailler ça aussi avec les danseurs. Donc non seulement une partie de groupe, et pas un petit groupe où on peut justement avoir plus de solo, enfin un côté un peu plus privatif. Donc d'avoir vraiment cet ensemble, donc retravailler l'ensemble d'un groupe et d'une écriture qui ne laisse pas droit à l'improvisation.
Quand je parlais d'écriture, c'était avant, en amont. C'est-à-dire, est-ce que vous apportez la matière déjà toute faite?
Oui.
Et vous le demandez aux danseurs de l'exécuter? Ou est-ce que vous leur donnez une phrase et qu'après, ils peuvent délirer dessus?
Broder. Non. J'apporte tout.
Alors ça, c'est très intéressant. Merci Galia, merci Franck pour ces différents termes. J'entends phrase et écriture. Mais on ne parle pas d'un texte, hein. Nous parlons bien de danse, nous parlons bien de chorégraphie. Donc voilà, c'est la question que nous nous posons tout à l'heure. Concrètement, ça fonctionne comme vous l'avez indiqué, vous vous filmez, mais est-ce qu'il y a un vocabulaire, est-ce qu'il
y a système d'écriture?
Oui, voilà. Il y a un vocabulaire, oui, il y a un vocabulaire écrit, il y a un vocabulaire aussi
un vocabulaire de pas.
Voilà. Donc on a le parler également et puis le côté démonstratif, donc le montrer.
Donc concrètement, si un danseur souhaite travailler chez lui, il peut le faire, mais une fois tout de même qu'il a entendu ce que vous aviez à lui indiquer.
Bien sûr.
Et alors donc pour vous, justement, vous nous indiquez tout à l'heure, vous ne passez pas par ce... vous parliez, Galilia, tout à l'heure d'un alphabet ou une langue, enfin comment dire, il y a
un système d'écriture.
Qui existe,
il y en a plusieurs en fait qui existent, il y en a deux. Il y a le système, ce qu'on appelle la cinétographie, qui a été inventée par Labanne, qu'on appelle Laban Notation en anglais, et puis la méthode Benesch qui a été inventée aussi par Benesch et qui est utilisée notamment par quelqu'un que les auditeurs connaissent peut-être et qui s'appelle Angelin Presse-Locage.
Voilà.
Roméo et Juliette
notamment, qui a été
connu par surtout Roméo et Juliette, mais qui donne souvent à l'opéra.
Mais vous, Franck Lézet, point de ces écritures?
Non.
Et alors, donc vous avez travaillé auparavant, je suppose, avant cette blessure, vous êtes donc filmé notamment, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. Donc... Je suis allé au studio, je me suis filmé, j'ai construit des phrases, j'ai improvisé aussi, et j'ai gardé vraiment ce qui me plaisait. Et du coup, j'ai travaillé aussi avec une assistante qui s'appelle Agali Van Damme, et qui a récupéré aussi ses vidéos, qui les a apprises, et du coup, quand on attaquait le processus de travail, on était tous les deux, à échanger ces phrases chorégraphiques.
Mais alors donc, pour le coup, vous avez filmé, vous avez enregistré toutes les phrases de vos 13 danseurs, ou bien parce que, justement, autant pour Gérald l'indiquait, vous le disiez, pour la deuxième partie, ce sont davantage des solos et des duos, mais pour les mouvements de groupe, vous avez pu distinguer, individualiser chacune de... Vous avez fait des heures et des heures de tournage, enfin, je pense.
J'ai fait des heures et des heures de tournage.
Oui.
Le montage a été très long. Ouais. Et j'avais vraiment une grande partie. Après, c'est pareil. J'avais pas toute la musique non plus. Donc, il y a des choses qui sont construites avec les danseurs sur place.
Et je crois savoir aussi que vous avez travaillé sur l'unisson. Donc, ça facilite un peu la tâche.
Oui.
D'accord. La troisième partie, est-ce que vous en avez un peu parlé? La première, donc, est davantage des mouvements d'ensemble. Enfin, je sais pas, est-ce le vocabulaire? Ensuite, oui. Gérald, tu as dit tout à l'heure davantage de solo et de duo. Et après, troisième partie, c'est...
La troisième partie, c'est un moment où on passe vraiment dans le punk rock. Et assez.
À nouveau ensemble.
Et,
groupe,
et là où pour moi, pareil, donc le. Si vous voulez, la danse s'accentue encore, devient de plus en plus rapide et de plus en plus forte. Et ce que je recherche vraiment, c'est qu'à la fin, ils ressentent que l'épuisement total.
C'est pas sympa, ils vont.
C'est pas sympa, non. C'est pour ça, mais voilà. La troisième partie pour moi est plus festif, pour que les gens prennent du plaisir vraiment sur scène et justement aussi le transmettent au public. J'ai envie qu'en fait le public se lève et aille aussi sur scène pour danser.
Ça va marcher.
Voilà ce que j'ai envie.
Ça pourrait être possible. Vous êtes la dernière pièce programmée sur les trois?
Oui,
ou bien
normalement, oui.
Normalement, vous êtes
là. Je connais pas encore tout à fait l'ordre.
Donc ce serait le bouquet final, c'est ça?
Ce serait le bouquet final.
L'apothéose.
J'espère qu'il sera pris comme ça. Et voilà quoi. J'ai surtout envie de donner vraiment du plaisir aux gens, de pas chercher. C'est pour ça que je n'ai pas. voulu faire quelque chose de conceptuel. J'essaie vraiment de faire une pièce tout public. Mmh. Et que chacun s'y retrouve, que ce soit musical ou au niveau de la danse.
Alors, vous dites tout public, on vient de parler de, je crois, enfin, je sais plus en quelle langue c'est, en serbe ou bosniaque, c'est Angelin Preljokaj,
oui, il me semble. Preljokaj.
Oui, ça, je crois, c'est l'orthographe, mais je crois que ça se prononce de manière très compliquée. On a diffusé tout à l'heure un peu de musique de Pierre-Henri pour Maurice Béjart. Est-ce que vous avez des inspirations parmi peut-être ces deux noms ou d'autres? Parce que,
c'est-à-dire. D'écriture même de mouvement, des placements, vous avez forcément des dadas,
de tout public,
et des maîtres.
C'est-à-dire, c'est.
Des influences.
William Forsythe, qui est américain, qui on a beaucoup travaillé. En tout cas au Ballet de Lyon, et qui m'a emmené vraiment dans un univers d'improvisation pour le coup, et qui m'a aidé aussi dans la création, puisque quand on improvise beaucoup, et ben on se cherche également pour pouvoir produire, et ça permet de d'élargir son langage chorégraphique. Et Matsek, un chorégraphe que j'aime beaucoup, qui m'a plus à porter au niveau artistique et à transmettre quelque chose sur scène en étant plus adulte.
Matsek.
Oui, et pour donner une image comme ça, peut-être, enfin, je ne sais pas, pour suggérer les choses, c'est donc cela se caractérise par des mouvements pleins d'amplitude ou au contraire des choses plus, enfin, je n'ai vraiment aucun terme.
Oui,
ouais.
Gérald et moi, sommes allés voir, c'était en avril dernier, nous avons le drumming live de Anna Teresa de Kersmaker. Moi, il m'a semblé que ça courait beaucoup.
Oui. Ça courait beaucoup.
C'est très vivant, très vif.
Je peux vous le dire.
Et sur scène,
d'où ma blessure d'ailleurs.
Ah mince.
On va pas parler d'elle. Non, mais c'est un travail complètement différent. Oui,
donc vous inscrivez, c'est non. C'est pas vraiment de ressemblance ou de tradition.
Non,
ou de, c'est,
non, non, y a non pas du de... tout. Du tout. C'est un autre travail sur la pièce d'Anne Teresa Kersmaker. C'était beaucoup sur la répétition, sur le rythme. Il y a eu un rapport aussi avec les musiciens. Parce
avec
qu'il
la
y a
musique,
des
c'est ça.
Des percussions.
Ah oui, alors peut-être une inspiration tout de même. Peut-être un point commun sur ce plan.
Alors non, parce que je n'avais pas musique... encore le programme quand on nous avait proposé. Je ne savais pas que
la musique
aussi
était faite sur scène.
Des musiciens. Mais c'est vrai que c'est génial d'utiliser des musiciens comme ça.
Et d'ailleurs,
ça crée d'autres dimensions.
Quelle formation pour vous? C'est combien sont-ils sur scène? Basse,
deux batteries,
une batterie, c'est un groupe classique de rock. Il y a deux guitares, une batterie, une basse.
Une guitare rythmique, une guitare solo.
Voilà.
Mélodique.
Une voix? Non, pas de.
Pas de voix, non.
Pas de voix.
Non.
Pas de texte, pas de voix. Alors, vous n'avez pas une idée de titre quand même pour aller chez l'auditeur?
Alors,
avant
non,
la semaine prochaine, mercredi prochain, 27.
Chaque jour, en fait, ça change, en fait. Et c'est vrai que partir d'un titre, c'est pour moi un titre est quand même très important.
Ah, oui,
Selon les humeurs, en fait, même des danseurs hein, qui se produisent, on trouve d'autres choses. Et
par exemple. Quelques mots,
n'en demande pas trop.
Ce sera un titre rock, je peux pas en dire plus.
La partition de Sylvain Ritchie porte-t-elle un nom justement? A-t-elle un titre cette partition? Ce qu'il a composé pour votre spectacle ou
non,
ça, non. Et d'ailleurs concrètement, j'y pense comme ça. Le morceau sera-t-il réécoutable? Est-ce qu'un enregistrement peut être prévu ou c'est...
Alors, il est prévu d'avoir un enregistrement. Déjà pour nous avoir un support de travail.
Donc pour vous c'est un film, c'est ça? Donc
voilà.
Il y a peut-être un DVD pour être produit. Ça,
peut-être,
c'est...
pourquoi pas. Oui.
ce serait une première éventuellement parce que.
Ça serait une première. Oui.
Mais
il faut voir s'il y a de la demande ou pas.
À propos, d'ailleurs, il y a le petit bulletin qui lance des activités pour aller voir répéter les danseurs du ballet.
Oui,
certains viennent dessiner, certains viennent filmer des vidéastes. J'ai vu ça.
Il y a la
brigade du ballet, ça a l'air intéressant, c'est une initiative.
C'est vrai que c'est très intéressant, où il y a des gens qui viennent pour filmer, faire des photos ou dessiner. Et il y a un échange qui se fait avec eux parce qu'ils ne sont pas forcément avertis. Et c'est très intéressant.
Vous pouvez trouver ça sur Internet, sur les pages de l'Opéra de Lyon, la brigade du ballet.
Moi, il y a une question que j'aimerais poser avant le départ de Franck, c'est... Pourquoi un danseur devient chorégraphe et a envie de devenir chorégraphe à un moment donné?
Alors, ça dépend vraiment de chacun. Je pense que c'est comme souvent on nous pose la question, donc vous êtes danseur, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, professeur de danse. Et en fait, pas du tout, parce que pour être professeur, c'est une vocation. Donc, et on l'a pas tous. C'est pas parce qu'on sait bien danser qu'on sait bien enseigner. Mmh. Et c'est, il faut aussi pouvoir se remettre en question et de vouloir travailler avec des amateurs également. Donc il faut être très pédagogue et on ne l'est pas forcément. Donc
ça c'est dit.
Voilà. Non mais on le laisse. Il y a des danseurs qui adorent ça et qui le font très bien. Mm-hmm. Et la chorégraphie en fait c'est pareil. Il y a des très très bons danseurs et qui ne se sentent pas du tout d'aller dans ce chemin-là. Et c'est vrai que c'est une bonne question parce que moi j'ai toujours aimé justement créer.
Merci d'avoir posé, Kalia.
Ouais.
C'est un rêve d'enfance.
C'est la question piège avant le départ. Et j'ai toujours aimé en fait la création de quand j'étais enfant, je faisais du piano et j'ai jamais voulu apprendre ce que le professeur me donnait à faire, à répéter chez moi. Finalement, j'étais toujours en train de créer. Mmh. Quelque chose de bien ou pas bien, hein. J'étais petit, en général c'était plutôt pas bien, mais et la danse c'est pareil. Je pense que j'avais peut-être ça en moi de toujours vouloir créer quelque chose pour les autres et voilà, je me suis pas vraiment posé la question et je pense que oui, c'est vraiment comme être professeur ou un autre travail, mais
allez-vous continuer? Oui, d'autres projets peut-être.
J'attends les retombées. Vous savez, c'est le jour d'une première. On attend toujours comment le public va réagir aussi, les premiers applaudissements. Donc j'attends en fait ça. C'est ça qui vous donne envie aussi de continuer, de savoir est-ce que vous êtes fait pour ça, parce que on peut aimer le faire, ouais, vouloir le faire, et de que on n'accroche pas le public ou que tout simplement. Donc en fait, j'attends ça. J'attends de voir.
En même temps, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, puisque vous aviez déjà réalisé des pièces, comme Scene Pictures et Histoire 2.
Oui, j'avais créé deux pièces pour le Ballet du Rhin.
C'était bien passé, qui avait du succès.
Oui, très bien passé. Et puis après, je suis venu à Lyon. Donc voilà, et j'ai fait des travaux chorégraphiques, justement. J'avais fait une soirée au Croiseur, qui s'était très très bien passé aussi. Donc voilà, on essaye. C'est vrai qu'après c'est pas évident parce que les budgets se réduisent chaque jour. Donc il faut se battre. Et j'espère que la chance que j'ai de pouvoir faire quelque chose pour le ballet aujourd'hui va pouvoir m'ouvrir des portes et va me permettre de continuer.
Pour savoir ce qu'il en sera de première avec un S, assistez donc à la première qui aura lieu mercredi prochain, 27
venez nombreux,
mai,
venez.
Au 20h30. Théâtre. Au théâtre Le Radiant, c'est quelle commune? C'est Caluire, je crois.
Caluire, c'est Caluire, oui.
Est-ce un pied de nez, Gérald? Écoutons Le Voyageur Immobile pour permettre...
Une autre musique de danse
permettre à Franck de filer. Et puis ensuite, avec Galia, en deuxième partie, nous parlons davantage de cette compagnie du ballet de...
L'Opéra National de Lyon.
Très bien. Merci Galia, merci Franck.
Merci à tous.
Bonne répétition cet après-midi. Au revoir.
Merci.
ho, 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 moochie ma. You're the rummest old rooster ever flopped out of Noah's Ark, and you think you're the cock of the walk.
Pourquoi ce morceau?
Alors nous écoutions donc une musique créée par Henri Torg et Serge Houpin, des compositeurs qui ont notamment beaucoup composé et écrit pour Galota il y a 15-20 ans déjà. Je me rappelle d'Ivan Vafan, que j'écoutais en boucle à l'époque, il y a bien 20 ans. Et voilà. Et là c'était plutôt un spectacle de marionnettes avec Gentil des années 95, avec Vincent Courtois, violoncelle qu'on connaît à Lyon. D'ailleurs Vincent Courtois il est connu. Il fait du jazz aussi. Il a travaillé avec Élise Caron, dont on parle souvent dans l'émission. Donc, une musique d'un spectacle de marionnettes. Très intéressant. Et les fidèles auditeurs, non pas de Radio Canu, mais de France Culture, auront reconnu un ancien générique. Il me semble que c'était l'eau à la bouche, oui, à une époque.
Émission le dimanche.
Voyageurs immobiles.
En tout cas, c'était voilà, une sorte de pied de nez un peu, puisque ce que Franck nous a dit en première partie d'émission, sa partition avec Sylvain Ricci sera plutôt rock. Puisque, rappelons, cette émission aujourd'hui est spéciale danse. D'ailleurs, nous recevons Galia qui va nous parler du ballet de l'Opéra de Lyon, mais notamment, enfin, mais un peu aussi d'elle. Et nous terminons, enfin, je reviens sur ce point, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, nous parlions avec Franck de ce spectacle donné la semaine prochaine qui porte ce titre Première avec un S, puisque trois chorégraphes lyonnais de la compagnie du ballet vont donc donner trois œuvres.
Qui, en même temps, dans le même.
Exactement, les noms ne sont pas encore tous déterminés.
Je crois que c'est
peut-être Ashley qui a déjà le nom de sa chorégraphie prêt.
Même pas.
Prêt. Non, même pas. Peut-être.
Ah si,
il y a un nom qui est prêt.
C'est Tadayoshi Kokeyushi.
Qui lui a un nom pour sa chorégraphie.
Qui s'appelle
Intangible
oui, pour le troisième.
Et donc cela commence mercredi 27 mai prochain à 20h30, au théâtre Le Radiant. Radiant Bellevue, c'est ça, c'est le nom donc de cette salle qui n'est pas l'Opéra de Lyon, puisque peut-être la salle doit être préparée pour Péléas qui commencera dans quelques jours, quelques temps après. Donc ça a lieu sur quatre dates. Prenez des informations sur le site de l'Opéra de Lyon ou bien sur le blog de l'émission comme d'habitude. Le site de l'Opéra de Lyon est très simple, c'est opéra-lyon.com et vous trouverez tous les renseignements que vous souhaiterez. Galia, rebonjour, puisque c'est une deuxième partie
bonjour.
De l'émission, qui va être donc davantage consacrée au ballet, ainsi qu'à vous-même, Galia. Qui êtes-vous? Allez, quelques mots, disons.
Mystère.
Gérald a lancé la question, comment êtes-vous arrivé à la danse? Voilà,
je suis arrivé à la danse par hasard, en fait. J'ai commencé à écrire à Lyon Libération, quand ça existait encore, c'est-à-dire il y a très très longtemps. Et en fait, c'est une amie qui partait à New York, qui écrivait pour les Saisons de la Danse, qui est un magazine spécialisé qui n'existe plus, non plus depuis longtemps. Qui partait à New York et qui m'a proposé en fait de reprendre sa correspondance pour faire des critiques, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire sur la danse. Et en fait j'ai continué parce que personne n'écrit sur la danse quasiment, et que c'est assez difficile paraît-il, et que pour moi ça ne l'a jamais été. Voilà.
Nous avons reçu, hein, c'était quoi? Quelle émission? La 8e, 9e, 10e, 13e? Francis de Conin qui tient.
Vous avez parlé de sa monographie.
Qui tient un blog.
Sur la danseuse qui s'appelle Labret, c'est ça?
Françoise Adret.
Françoise Adret, allez, il a publié. Hein.
Françoise Adret, dont on peut effectivement parler pour évoquer l'origine du ballet. Puisque.
Allons-y.
Voici la transition.
En fait, c'est, je dirais, elle qui a impulsé le contemporain dans le ballet de l'Opéra de Lyon, si je ne dis pas de bêtises. Mm-hmm. C'était en 80. Dans les années 80. Moi, je me souviens de 85 avec Cendrillon de Maggie Marin. Et en fait, Yorgos Loukos, qui est le directeur actuel du ballet.
Depuis combien de temps? Ça fait déjà
depuis une vingtaine d'années. Donc, qui est le directeur du ballet actuellement, était l'assistant de Françoise Adret. Voilà.
Donc Francis de Coninck, lui, tient un blog, c'est ça. Mais c'est pas régulier, je crois, le fait qu'il parle de danse. Non, mais bien sûr.
Mais il parle régulièrement de danse.
Si, quand même, régulièrement.
Il a des chroniques diverses, comme on l'a reçu sur l'Afrique, sur ses dadas, et la danse, évidemment.
Mais c'est vrai qu'il fait que ses chroniques sont un peu moins fréquentes qu'avant, puisqu'avant c'était plutôt à raison d'une fois par semaine,
oui,
et que maintenant c'est plutôt une fois par mois.
Et vous-même, pour vous lire, Galia, on peut donc feuilleter des dossiers de presse.
Alors,
hein, c'est
à un
ça,
moment,
Gérald,
elle écrivait.
Alors moi j'écris pour un magazine, un hebdomadaire que les Lyonnais connaissent peu, puisque c'est un magazine qui s'adresse plutôt à des spécialistes, assez on va dire, à des spécialistes qui n'ont rien à voir avec la danse. Mais nous avons beaucoup de pages culture et j'écris régulièrement sur la danse pour le Toulon Affiche. J'écris également pour le blog Danse et Canal Historique qu'on trouve sur Internet.
Et alors donc à Lyon, vous couvrez surtout la maison de la danse, je pense, mais aussi...
Non, pas seulement la maison de la danse. Il y a la maison de la danse, il y a le toboggan, il y a maintenant le théâtre de la Croix-Rousse qui s'y met, il y a le Croiseur, il y a les subsistances, enfin, il y a quand même plein d'endroits où on peut voir de la danse à Lyon.
Mais ce qui vous amène aujourd'hui derrière le micro, c'est pour parler plus précisément du ballet, de ce ballet de l'Opéra de Lyon, qui, est-ce que vous pourriez presque retracer un portrait avec quelques dates? Vous maîtrisez ça, Galia?
Non, oui, pas tout à fait, pas complètement.
Nous allons parler sous contrôle.
De mémoire, je disais dans les années 80, Françoise Adrey impulse cette dimension contemporaine au ballet.
Et qui existait déjà, alors, oui, depuis...
Oui, et le ballet existait depuis longtemps. Enfin, il a... Je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a été créé dans la foulée de Louis Herlaut quand l'opéra a vraiment
décollé
dans les années à la fin des années 60.
On se l'est dit, Gérald, un jour on recevra Gérard Corneloup qui nous fera un point sur les différentes institutions lyonnaises, institutions culturelles. On pourra parler donc de l'opéra, on pourra parler des théâtres nationaux populaires et célestins. On évoquera tout ça avec lui. C'est très intéressant. Un personnage, une culture encyclopédique qui pourra nous renseigner sur toutes ces choses. Mais donc, Galia, vous dites c'est Françoise Adrey qui impulse une nouvelle direction à ce ballet.
Une direction plus contemporaine, on va dire, au ballet. Et en fait, le ballet ne va plus faire que du contemporain. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune pièce de répertoire classique dans le ballet de l'Opéra de Lyon, et ça date effectivement de Françoise Adrey.
Et il y a des gens qui s'en plaignent, Parce que pour revenir à la définition du ballet, moi j'aimerais bien une définition un peu du ballet. Quand on entend ballet, on sent son revolver, on pense tout de suite le tutu, le lac des cygnes et la caricature d'un ballet où on a tendance, même si c'est charmant et très mignon et les petits chignons, on a tendance un peu à s'ennuyer. Le ballet a été remis en question il y a longtemps déjà, avec peut-être Béjart qu'on écoutait au début. C'était un ballet, ça. Mais pour un temps présent, c'est un ballet.
Oui, puisque sa compagnie s'appelait le ballet pour le ballet du XXe siècle.
Donc la rénovation, on va dire, du ballet contemporain moderne, ça date des années 50, 60.
Alors, c'est un sujet un peu trop vaste pour qu'il soit abordé là maintenant.
Le ballet, ça suppose un ensemble de groupes de danseurs qui jouent
Non, le ballet, je dirais maintenant, c'est une compagnie permanente qui est installée dans un opéra.
Ça serait ça, la définition basique.
Pour moi, ce serait ça, la définition basique. Après, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on prend l'exemple du ballet de Biarritz, par exemple, qui est un ballet qui n'est pas installé avec un opéra. Mais qui est un ballet, par contre, parce que, effectivement, dans ballet, il y a quand même une connotation, on va dire, néoclassique, avec une notion de pas.
Oui.
Ce qu'on va pas trouver dans le contemporain pur. Et c'est ce qui fait la spécificité du ballet de l'Opéra de Lyon, c'est que c'est un ballet qui fait du néoclassique, mais qui fait pas que du néoclassique, qui fait vraiment du très contemporain. Je pense à notamment au programme qui a été présenté pendant la Biennale 2014 avec une pièce de François Chéniaud et Cécilia Bengolea qu'on pourrait difficilement qualifier de classique, même si elle utilisait les pointes.
Pour mieux les...
Et donc, le classique, vous disiez, Gérald ou Galia, je ne sais plus, il n'y en a plus à l'Opéra de Lyon, au Ballet de l'Opéra de Lyon.
Au Ballet de l'Opéra de Lyon, il n'y en a plus.
Et pourtant, on peut avoir, comment nommer ça, on peut avoir des pièces, je pense à Cendrillon, comme ça, ça me vient en tête, mais non, pour le coup,
Cendrillon... du ballet, c'est la Cendrillon de Maggie Marin, et elle n'a strictement rien de classique.
Oui, mais la musique...
Même si c'est devenu un classique
de la danse
contemporaine d'aujourd'hui, mais c'est autre chose.
Et la musique, pour le coup, c'est bien la musique...
C'est Prokofiev.
C'est ça. Donc ça reste quand même un petit peu dans l'idée classique, mais danser, non. La chorégraphie est autre.
La chorégraphie est autre. Ben, en fait, c'est une...
Ce n'est plus Marius Petipas, c'est ça? Ou bien,
qui
nommions-nous aussi il y a les Russes, non? Aussi les Balanchine, non?
Balanchine, c'est autre chose encore.
Oui, c'est ça.
Balanchine, c'est du ballet abstrait.
Oui. Donc à Lyon avec le Roméo et Juliette, dont pareil, la musique est également de Prokofiev. Il y a non plus rien de classique sur
non,
ce...
Non, il n'y a absolument rien de classique. Ouais. Même si c'était un vocabulaire avec quelques pas classiques. Mais après, on peut évoquer aussi Forsythe, qui utilise le vocabulaire classique et qui fait des pièces qui ne sont absolument pas classiques et qui sont d'ailleurs des fois, parfois détestées par les amateurs de ballet. Justement.
On parle à l'instant de Roméo et Juliette. La première, elle a eu lieu
en 1990.
90, hein. Je pensais que c'était même peut-être encore plus ancien, les années 80.
Non, 90.
Et ça a été repris plusieurs fois, je crois, à l'Opéra de Lyon.
Oui, c'est un des tubes du ballet avec Cendrillon. Hein.
Mmh. Il y en a deux, c'est ça?
Voilà.
Ah, il n'y a pas aussi un casque.
Sauf que Roméo et Juliette, ça fait un petit moment qu'il n'a pas été reprise.
Oh, 4-5 ans, je crois, non, il me semble. 2008, peut-être, je dirais, 2008-9. Ouais, alors, ouais, hein, ouais, ça fait 7 ans, là, oui. Et c'est ça. Il n'y a pas un Casse-Noisette aussi qui serait.
Il y a un Casse-Noisette qui a été fait par Dominique Boivin il y a longtemps aussi.
Mais ça, ce n'est pas.
Pas du tout classique. Non. Pas du tout classique.
Non, bien sûr.
Mais... Boivin est pas du tout
mais
classique.
Mais il n'est pas. Il est bien dans le répertoire, mais il n'a pas été redonné, non
c'est non, il n'a pas été redonné depuis très très longtemps. Je crois qu'il n'a même jamais été redonné. Bah, peut-être il a tourné un peu, je ne me souviens plus.
Et donc, est-ce que vous arrivez, vous, avec ces différents spectacles que vous avez vus, à donner une identité qui fasse au ballet de l'Opéra de Lyon, qui fasse qu'il soit différent, par exemple, de celui de Biarritz?
Déjà, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est que c'est certainement une des compagnies françaises qui tourne le plus dans le monde.
Mmh. Oui, on en parlait un instant.
Le rayonnement de Lyon,
dernièrement,
ville de la danse.
Avec Mourad Merzouki, je pense
américaine.
Que c'est les deux qui se partagent le gâteau. Hein. Et d'ailleurs, pendant longtemps, maintenant c'est peut-être plus vrai, mais pendant longtemps, le ballet de l'Opéra de Lyon a été bien plus connu à l'étranger
qu'ici.
Et beaucoup plus acclamé à l'étranger qu'ici.
Un peu comme Mireille Mathieu, quoi.
Si l'on veut.
La comparaison. Acclamé, vraiment, oui, il y a des...
Bien sûr. Cendrillon, à New York, avait reçu un accueil phénoménal. Pas la première fois, je crois, mais la deuxième.
D'accord. Et c'est une belle renommée qui commence alors à s'installer un peu en France. Alors.
À s'installer, oui, à Lyon. Je pense que maintenant, effectivement, le ballet il remplit la salle, déjà. Ce qui n'était pas sur le cas avant, justement, alors qu'elle le remplissait à New York et à Tokyo.
Paradoxal. Voilà. Le Met, ouais, c'était plein, le Met. L'Opéra de Lyon, non. On a dansé dernièrement, non, c'était pas plein.
Pour revenir à des questions un peu plus concrètes, voire matérielles, combien de danseurs c'est un ballet à Lyon? Ça représente combien de personnes
Une trentaine.
Une trentaine de personnes, ouais. Qui ont un statut de danseur officiel, qui sont rémunérés.
Alors, qu'est-ce qui fait aussi la caractéristique d'un ballet, c'est que ce sont des danseurs salariés.
Voilà, salariés.
À l'inverse
comme musiciens de l'orchestre.
Voilà, à l'inverse de tous les autres danseurs dans les compagnies.
Alors,
des intermittents.
Ça ne les empêche pas d'aller contribuer à participer à d'autres spectacles ailleurs dans le monde, avec d'autres.
Ah non, justement, il y a une clause d'exclusivité.
D'exclusivité,
oui.
D'accord. Comme un artiste qui resterait dans une galerie et qui signerait. Voilà.
Tout à fait.
D'exclusivité.
C'est pour ça que Sylvie Guillem était partie de l'Opéra de Paris parce qu'elle voulait pas d'exclusivité, que quand on est danseur à l'Opéra de Paris, on ne danse que pour l'Opéra de Paris.
D'accord. Franck Lézet, ici présent, qui vient de nous quitter, il dansait depuis 2005, ça fait 10 ans déjà. Donc combien de temps un danseur peut prétendre à danser dans un même ballet ou à l'Opéra de Lyon?
C'est très variable,
ça
dépend des danseurs.
Ouais.
Il y a des danseurs qui restent 2 ans au ballet de l'Opéra de Lyon parce qu'ils vont rencontrer quelqu'un d'autre, un autre chorégraphe
et qui
vont partir avec lui. Il y a des danseurs qui vont rester 20 ans au ballet.
20 ans, c'est possible.
Oui, c'est possible.
Il n'y a pas d'interdiction d'âge?
Si.
De limite d'âge?
Si, il y a une limite d'âge.
Il me semble
la limite physique.
De toute façon, c'est ça en fait. La limite, c'est la limite physique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'êtes plus distribué et du coup, vous allez sortir vous-même. Enfin, de vous-même des effectifs. Il faut savoir aussi que c'est pas des contrats, ce sont des contrats renouvelables en fait. Hein. Ils sont pas danseurs à vie.
Oui.
Comme par exemple à l'Opéra de Paris où après ils sont à la retraite. Enfin, c'est pas du tout le même statut. Hein.
D'accord.
Donc.
Est-ce que ce vocabulaire marche à Lyon? Je crois qu'à Paris il est quand même bien utilisé, le danseur étoile.
Non.
Il y a pas de
catégorie à Lyon. Et ça fait partie aussi de l'identité du ballet qui fait qu'il est contemporain.
Parce que tous sont au même niveau. Danseur étoile, c'est donc une catégorie, c'est ça? Et
oui,
c'est
la plus haute catégorie, c'est là que vous êtes le mieux payé.
Et il y en a d'autres encore de catégories alors?
Il y en a plein. Dessous. Premier danseur.
Premier danseur, oui. Comme dans un orchestre.
Ouais,
premier violon.
Ça.
Et qui va interpréter le rôle phare, comme dans Black Swan?
Les coryphées, les quadrilles.
Les coryphées.
Voilà, moi je connais pas très bien la terminologie parce que je suis pas spécialiste de danse classique, justement. Effectivement, il y a des grades.
Oui,
et en fait, être étoile, on est nommé. Alors que les autres, on les obtient par concours.
Et nous parlons du ballet de l'Opéra de Paris, donc celui-ci est davantage classique, alors c'est ça? Ou disons, ils font un peu.
Alors, il y a les deux à l'Opéra de Paris, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un répertoire classique qui inclut Petit Pas, la Belle, enfin les ballets classiques, les Gisèles, la Belle au Bois Dormant, Scheherazade, enfin
et qui sont
tous les ballets classiques
qui
sont donnés très régulièrement, et à la fois une politique d'accueil de chorégraphes qui crée pour l'Opéra de Paris.
Alors qu'à Lyon, ce n'est donc pas du tout le cas. C'est vraiment
que des chorégraphes contemporains.
Ça peut être intéressant. Donc on est presque en train d'établir une liste. On serait quel élément, le premier, deuxième, quatrième, ou donc il n'y a pas de catégorie. La danse est purement contemporaine, pas de classique. Les danseurs sont. Je pensais au personnel. Il n'y a donc que Yorgos Loukos qui dirige. Il y a peut-être quelques assistants et puis il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas de chorégraphe.
Non, il y a eu une politique à un moment donné de chorégraphe résident, mais c'est plus le cas maintenant. C'est Yorgos qui commande à des chorégraphes.
Qui l'a été, par exemple, un chorégraphe en résidence à Lyon?
Bill C. Jones, par exemple. Maggie Marin, qui a fait Cendrillon.
Avant l'expérience Rieu Lapape et tout ça, bien avant.
Bien avant, parce que c'est 85.
Début. Oui.
85. Ah oui, oui. Et Maggie, elle a commencé en... 80, si on prend Maybe, c'est 81.
Elle revient, je crois, non, Maggie Marin?
Elle est revenue.
Oui, c'est ça.
Ramdam.
Elle est revenue, oui.
On en parlait avec David Mambouche en mars dernier, à l'occasion de sa pièce Juan au TNP.
Qui a d'ailleurs été aussi programmé à Ramdam il y a deux semaines, avec sa pièce à lui. Enfin, une pièce qui a été mise en scène par Maggie Marin.
Il est chorégraphe également. Quel homme, metteur en scène, acteur, enfin comédien dans la troupe du TNP et donc également chorégraphe.
Non, pas chorégraphe.
Non,
parce
disons,
que c'est Maggie Marin qui a mis en scène.
Et pour revenir encore aux caractéristiques de ce ballet de l'Opéra National de Lyon, qu'est-ce qu'on pourrait encore... Peut-être, écoutons un peu de musique. Du Hervé Perte. T'as prévu du Hervé Perte. Qu'est-ce que je mets de Hervé Perte?
Le premier.
Le premier, pour commencer. Fratresse, écoute, je t'en prie, lis donc. Et puis ensuite, nous continuons à parler du ballet de l'Opéra National de Lyon, avec Galia ici présente, et puis voilà. Tout d'abord, Hervé Perte, et nous continuerons ensuite. Gérald, je peux le laisser en fond. Alors, rappelle-nous ce que c'est. Puis Fratresse.
Bournemouth, une symphonie.
Pièce qui est souvent utilisée en danse.
Richard Stout, Tasman Little, Emmy Classique.
Merci, Galia, de rappeler que nous parlons de danse aujourd'hui.
1994.
Très bien. En première partie, nous avons reçu Franck Lézet qui a dû partir au théâtre Le Radiant en Bellevue pour évoquer. Pour travailler.
Finaliser à sa création.
Dont le nom n'est pas encore donné. Donc, auditeur,
c'est pour ça qu'il est parti réfléchir à ça.
Allez sur le site pour voir de quoi il est question. Rappelle-nous les dates, Gérard.
Donc, cette création s'inscrit dans une programmation délocalisée au Radiant de Caluire par l'Opéra de Lyon, le ballet de l'Opéra de Lyon. Ça s'appelle Ballet de l'Opéra de Lyon, création, qui donne carte libre à trois jeunes talents émergents, danseurs chorégraphes. Il y a Ashley Wright, Franck Lézet qui vient de nous quitter, et Todayoshi Kogeguchi. Donc trois créations. De nature différente.
Et depuis que Franck nous a laissé, nous étions déjà depuis le début de l'émission avec Galia. Nous continuons à être avec Galia pour essayer de brosser un peu un portrait de ce ballet de l'Opéra de Lyon. Nous avons donc indiqué différents grands noms. On a joué à ce name dropping. Merce Cunningham, on l'a donné aussi, je crois.
Encore.
Non, on l'a pas donné. Effectivement, il y a une pièce qui est au répertoire du ballet.
Galia, que signifie ce terme de répertoire? C'est le fait que la pièce ait été jouée une fois, c'est ça? Ou c'est
alors il y a il y a deux définitions, on va dire. Il y a le répertoire d'un ballet, à savoir le ballet de l'Opéra de Lyon, qui a un répertoire, à savoir il a des pièces qu'il a le droit de jouer.
Qu'il a le droit de jouer.
Et puis après, il y a le répertoire dans l'histoire de la danse, qui est ce qu'on appelle les pièces incontournables. Je vais citer Gisèle et je vais citer le Sacre du Printemps, parce qu'il y a d'innombrables versions de Gisèle et de plus en plus innombrables encore versions du Sacre du Printemps. Je crois qu'on est à 300 actuellement.
Est-ce qu'ils l'ont dansé à Lyon, le Sacre du Printemps ?
Le Sacre du Printemps de Nijinsky n'a pas été dansé à Lyon par les ballets russes, mais elle a été dansée il y a pas très longtemps, je crois en 2013, par le ballet de Monte Carlo, à l'occasion du centenaire de la fondation des ballets russes, enfin des ballets russes et de la création du Sacre du Printemps.
Donc c'était à la Maison de la Danse, je suppose.
C'était à la Maison de la Danse.
Mais est-ce que le ballet de l'Opéra de Lyon pourrait danser le Sacre du Printemps sur la musique, mais avec un autre chorégraphe?
Absolument. Absolument.
Et est-ce que ça s'est fait aussi? Il me semble qu'Angeline, il l'a fait, je crois.
Il a fait un Sacre du Printemps, mais qui n'était pas pour le ballet de l'Opéra de Lyon. Mais il a fait un Sacre du Printemps. Il faut savoir que tous les chorégraphes, quasiment,
font leur Sacre
se coltinent à un moment le Sacre du Printemps.
Même seul.
Pina Bausch a fait le Sacre du Printemps. Maurice Béjart a fait le Sacre du Printemps. Enfin, il y en a plein. Il y a plus de 300 versions du Sacre.
Et alors, ces versions ont-elles été dansées à Lyon ou non?
Il y en a quelques-unes qui ont été dansées à Lyon, oui, bien sûr.
Il y avait quel chorégraphe? Alors, des grands noms, pas forcément des grands noms, mais des personnes...
Pina Bausch, le Sacre du Printemps était dansé à Fourvière par le Ballet de l'Opéra de Paris il y a quelques années. Je suppose Béjart a aidé à danser son Sacre à Lyon, puisqu'il a créé plein de ses pièces à Lyon. Il n'a jamais créé à Paris, il faut le savoir quand même. Pas très peu.
Il était à Genève, non, c'est ça?
Il était d'abord à Bruxelles, ensuite à Lausanne.
Oui, Lyon, peut-être que c'était...
Et il a beaucoup créé à Lyon. Il a créé une pièce notamment qui s'appelle Au Voltage en 1959. J'espère que je ne dis pas de bêtises, Francis, qui me reprendra.
Dans quelle salle cela a lieu?
C'était à l'Opéra, je crois.
C'était à l'Opéra,
je crois, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une pièce qui a été créée à Lyon qui s'appelle Au Voltage.
J'ai d'ailleurs entendu dire, là, pour la Maison de la Danse, qu'à une époque, c'était à la Croix-Rousse, c'est ça?
Enfin, c'est
c'était
ça. La Maison de la Danse a été créée, en fait, dans une ancienne salle polyvalente, place Johannes Ambre, en 1981, je crois, et a déménagé au Théâtre du 8e en 90, si ma mémoire est bonne.
Et donc, devenu le théâtre de la Croix-Rousse.
Il faut voir dans cette date, 1980, qui est quand même une date forte symboliquement, politiquement, c'est lié au grand contexte de renouveau de la culture, on va dire,
C'est l'élan de la décentralisation, oui.
Voilà, quand même.
Mais ça a été fait juste avant, en fait, je crois. Mmh. La création de la Maison de la Danse, a été faite par cinq amateurs de danse, en fait.
Il me semble passionné. Qu'on rentre un peu dans un système de colle. Elle a posé des questions à Galia, j'en aurais une éventuellement. Est-ce que les pièces qui sont au répertoire du ballet de l'Opéra de Lyon ont été données par d'autres compagnies, par d'autres ballets? Je pense par exemple, nous avons évoqué tout à l'heure Maggie Marin, le Cendrillon. Est-ce que Cendrillon a pu être dansé?
Cendrillon appartient au ballet.
Voilà, donc ça n'est pas possible. C'est bien.
Par contre, Drumming, que vous avez vu il y a un mois, c'est une pièce qui est au répertoire de la compagnie Rosas, qui est la compagnie d'Anne-Thérèse Kiesmaker. Qu'elle a donnée au ballet de l'Opéra.
Elle a prêté.
Et qui est entrée au répertoire. Parce qu'il y a deux sortes de pièces qui sont dansées par le ballet de l'Opéra de Lyon. C'est les ballets qui entrent au répertoire, et puis des pièces qui sont commandées, mais pour une fois, par exemple.
Qui rentrent pas
au répertoire.
Par exemple, elles ne sont jamais rejouées, en fait.
Voilà.
Si on parcourait un peu cette saison, est-ce que vous avez quelques spectacles à évoquer pour dire, bien là, par exemple, c'était une pièce qui ne sera pas redonnée
Elle va rentrer dans le répertoire parce que c'était génial.
Il aurait fallu plutôt inviter Yorgos Loukos pour répondre à cette question. Bon.
Et la saison prochaine, est-ce que vous avez la brochure Galia? Est-ce que vous l'avez déjà parcourue? Quels sont les spectacles qui auront lieu? Enfin, disons, on va pas forcément tout parcourir, mais de toute façon, il nous reste quoi, 3-4 minutes? Oui. Je me suis laissé dire que Pascal, pour le Blues des Canuts, ne serait pas là tout à l'heure.
On pourra écouter le début du Sacre du Printemps.
On n'a pas le droit de déborder. Les créneaux horaires de Radio Canut sont des créneaux horaires qui devraient être bien déterminés. Néanmoins, j'ai écouté, je crois, Honneur du Prolétariat les lundis entre 18 et 19. Il me semble qu'à passer 19h, puisque le Canut Info n'a plus lieu, il me semble qu'ils ont un peu débordé. Mais c'est très léger généralement. Donc là, on irait jusqu'à 15h01, 15h02. Pas davantage. Ne débordons pas trop. Galia, est-ce que vous avez la brochure sous les yeux? Est-ce que vous pouvez indiquer, je ne sais pas, justement avec cette idée de vocabulaire, quelles pièces ont déjà été données, vont être données, sont des premières, des commandes ou je ne sais encore?
Alors, si on prend par exemple Révolution,
puisque là,
au pluriel,
elle est toute fraîche, hein,
Révolution au pluriel, dans ce programme-là,
2015-16.
Il y a une pièce de Tania Carvalho qui est une création qui a été faite à la chorégraphe par le directeur du ballet, et une pièce, une reprise d'une pièce qui a été commandée l'année dernière à Rachid Ouramdam par le directeur du ballet. Donc on peut dire qu'il y en a une qui... Et une reprise d'Emmanuel Gatt aussi. Donc ça, ce sont deux pièces qui sont entrées au répertoire et qui sont reprises. Mm-hmm. Et Tania Carvalho, c'est une création. Est-ce qu'elle va entrer au répertoire ou pas? Ça, c'est une question qu'il faudra poser à Yorgos Loukos.
Il est trop tôt pour le dire.
Et puis pour rebondir, je voudrais juste évoquer le programme Made in America, qui est quand même certainement le programme le plus excitant de la saison.
Ah.
Quelle date? Il faut indiquer ces choses-là.
Le 13 avril 2016, ce sera la première.
Dans un an.
Voilà, exactement, dans un an. Et ce sera une soirée américaine avec Merce Cunningham, que nous évoquions tout à l'heure, et Lucinda Childs, qui n'a jamais été au ballet, pour le coup.
Et alors, les dates, c'est sur... quand c'est donné, c'est sur 5-10 dates, c'est ça, plus ou moins, ou
C'est du 13 au 17. Du 13 au 17.
2016.
Parce que là, nous parlions de première tout à l'heure. Rappelle-nous encore, Gérald.
Alors, première, ça commence mercredi prochain au Radiant.
Mercredi 27 mai au Radiant.
Mercredi 27, jeudi 28.
Vendredi 29.
Vendredi 29,
samedi 30
à 20h30, précise au Radiant à Caluire, d'une durée de 1h30, un triptyque, trois créations, trois chorégraphes émergents. 10 à 25 euros les places, c'est tout à fait abordable.
Gérald, ça, je pense que ça peut faire la matière. Une dernière question peut-être à poser à Galia, c'est... Pourquoi ces spectacles-là ne sont pas donnés comme les opéras à l'Opéra de Lyon? Pourquoi ne sont-ils pas donnés sur une durée de 2 voire 3 semaines? C'est parce que concrètement, ça ne pourrait pas être physiquement possible pour les danseurs ou
Non, c'est pas
physique.
C'est pas du tout physique.
Quand on entend Franck Lézé dire, je veux qu'au terme de ma pièce, les danseurs.
L'allocation de salle peut-être déjà. Il faut réserver les salles.
Les salles
sont prises, elles sont réservées pour d'autres spectacles.
Ça, c'est une question qu'il faudrait poser à nos instances politiques, je pense.
À mon avis, c'est une question budgétaire, une question de location, de disponibilité de salle.
Une question budgétaire, c'est sûr, et une question de manque de risque. Ah non, c'est pas du tout physique.
Je pensais que les
danseurs.
Les danseurs, c'est des
marathoniens,
des athlètes. Pas de souci, hein. C'est des athlètes, hein. Ils peuvent tenir facilement une dizaine de jours, faire deux spectacles par jour. Enfin, c'est quand vous connaissez les rythmes, par exemple, des danseuses du Crazy Horse.
Mieux. Je tiens la dernière question. Il faudrait quand même le faire. Parler un peu de ces danseurs du ballet de Lyon. Vous les connaissez assez bien. Est-ce ils sont ce sont vraiment des Porsche. Vous disiez à l'instant.
Ah oui, ils sont des Porsche.
Il y a quelques Ferrari quand même dedans. Oui,
oui, bien sûr. Des Porsche, des Ferrari, des Rolls Royce.
C'est vraiment
des Corvettes.
Le très haut de gamme. Oui,
c'est vraiment le très haut de gamme.
Il s'est constitué donc depuis des années. Il continue, il tourne un peu. Enfin, comment dire, à l'intérieur même, il y a des.
Bien sûr, ça tourne pas mal même.
Et alors, ces trois-là, Franck Lézé, Tadeyoshi Kokeguchi ainsi que Ashley Wright, vous les connaissez un peu, oui.
Je les connais pour les avoir vus danser. Oui.
Ce sont
trois excellents interprètes.
Des belles Porsches.
Oui.
Bon, ben là, Gérald, je crois qu'on est arrivé au terme. En plus, il est 15h.
Ouais. On écoute le début du sacre pour finir ou pas?
Je crois que ça va être vraiment très compliqué. Moi, ça m'ennuie un peu. Éventuellement, je te laisse dire un mot, peut-être. Tu souhaitais parler du 1, c'est ça, je crois?
Non, c'était juste pour dire que le 1 continue à apparaître les mercredis. Et c'est la question noire en Amérique ce mercredi. Donc, c'est intéressant. Toujours l'historien Papandiaï, des journalistes américains qui font l'état des lieux. Il s'est passé des choses aussi en France entière qui sont pas très réjouissantes non plus, mais on va pas parler de ça. Et puis il y a aussi Télérama hors série sur Le Corbusier, où on apprend des choses qui font un peu froid dans le dos. Mais on va pas résumer Le Corbusier à
ses propos racistes, implication,
ses propos assez fascisants dans ces années-là. Bon, c'est pas reluisant. Bon, on n'a pas réussi à raser Paris, alors on peut s'estimer heureux.
Moi, je veux indiquer seulement deux mots. Je ne sais pas si la danse serait une forme éventuellement de théâtre dansé. C'est pour trouver seulement une transition, c'est pour évoquer du théâtre. La semaine prochaine, Gérald, nous recevons des personnes, des artistes du TNP pour cette pièce mai, juin, juillet qui est donnée sur 2 semaines, voire 3 semaines au TNP. Donc mai, juin, juillet, une pièce de Denis Guénoun. Attention, hein, à peu près, ça dure 3h30, 4h. Donc 19h30 l'horaire, c'est donné à peu près tous les jours, depuis le mardi 26 jusqu'au samedi 15 juin. Donc c'est ça, presque 3 semaines. Il y a également actuellement au Théâtre des Célestins, à la fois sur le Théâtre des Célestins, sur la scène principale, se trouve Carole Bouquet avec Gérard de Sarthe pour une pièce assez bizarre, assez particulière. Vous en verrez un compte rendu sur le blog, puisque j'ai vu cette pièce. C'est assez particulier. Dispersion de tirée de Ashes to Ashes de Harold Pinter. Et très intéressant. Les Célestins se délocalisent un peu comme l'opéra qui va au Radiant. Les Célestins se délocalisent pas très loin, enfin ils traversent un peu quand même le Rhône pour aller au centre commercial Lapardieu et donner dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès. Et voilà, générique de fin d'émission. Merci Gérald.
Merci Christophe.
C'était très bien. Merci beaucoup Galia.
Merci Galia.
Il faudra que nous remercions Sophie également. Merci à Franck qui est passé tout à l'heure. Et puis voilà, allez donc courez la semaine prochaine, réservez vos places sur le site de l'Opéra pour voir ce que sera ce premier. Les émissions, il n'y a pas de blues des canuts, mais il y aura différentes choses, notamment le Canu Info et puis le Méga Combi à 18h. Voilà, restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. Bonne semaine.
À la semaine prochaine.